pris douche. Bien, on va avoir un pris douche. Bien, on va avoir un pris douche. Douche. Le Ramban, dans son introduction au Sefer Shemot, il dit la chose suivante. Iné, voici, Hagalut, l'exil, il parle de l'exil d'Égypte, Enenu Nishlam, il n'est pas terminé. Ad yom shuvam el mekomam, jusqu'au jour où les Bnei Israël retournent sur leur lieu, vel ma'alat avotam yashuvu, et qu'ils retrouvent le niveau spirituel de leurs ancêtres, ukshiyatsu mi mitzrayim, et quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Afalpi sheyatsu mi bet avadim, bien qu'ils soient sortis de l'esclavage, adayin yichshuvu golim, ils ont encore un statut d'exilé. Ils sont encore dans le galout de Mitzrayim. Ki ayu beres lo lahem, nevuchim bamidbar, ils étaient dans un pays qui n'est pas le leur, ensuite quasiment, comme on dit, perdu dans le désert. Ukshebaou el Har Sinai, lorsqu'ils sont arrivés au pied du Sinai, et seulement après Ve'asu Hamishkan, et qu'ils ont construit le tabernacle, le Mishkan, Ve'shav Hashem ve'ishra Shkinato benehem, et Hashem est revenu et il a installé sa présence divine parmi eux. Az, alors, Shavu el Malat Avotam, ils ont retrouvé le niveau qui était le niveau de leurs ancêtres. Shaya, ce niveau c'était Sod Eloka Aleo Alehem, ce secret que Elohim était au-dessus de leur tente. Vehem Hem Amerkava, et ils sont devenus la Merkava, c'est-à-dire le chariot, le support de la présence divine dans le monde. Veaz, et alors, dit Ramban, alors seulement, Nerchevu Geulim. Alors et alors seulement, ils seront considérés comme libérés. En d'autres termes, le Ramban nous enseigne qu'après la sortie d'Égypte, nous n'étions pas encore libres. Qu'après Matan Torah, nous n'étions toujours pas libres. Nous ne sommes libres que depuis qu'Hachem a installé sa présence divine dans le Mishkan, dans le tabernacle. C'est-à-dire, quand est-ce qu'Hachem a été mâchré sa shrina dans le tabernacle? Quand on a érigé le tabernacle, le Mishkan. Quand est-ce? C'est bientôt, Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, on a monté le Mishkan. Le Ramban est en train de nous dire que nous sommes sortis à Pessah, d'Égypte, mais nous ne sommes libres qu'une année plus tard, une année moins 15 jours plus tard. Bon, on est sorti le soir du Seder. C'est-à-dire, nous sommes sortis la dernière fois que vous êtes assis au Seder, c'est la sortie d'Égypte. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans tout, après tout ce temps, de cette année qui s'est écoulée, d'accord, nous ne sommes pas encore libres, dit Ramban. Nous ne serons libres que dans le dimanche d'après. C'est Rosh Chodesh Nissan. C'est-à-dire presque un an plus tard. Ça, c'est ce que dit Ramban. Ce Ramban, il est un peu surprenant, parce qu'il y a une Gemara qui semble dire autre chose. La Gemara dit dans Brachot, Daftet, la Gemara dit que depuis l'El Tetvav, Hayu Geulim, la Gemara dit Akol Modim, tout le monde est d'accord, que chez Nigalou Israël mi Mitzrayim, lorsque les Bnei Israël ont été libérés de l'Égypte, Lo Nigalou Ela Ba'erev, la Geoula, la libération, elle a eu lieu de nuit, c'est-à-dire à minuit. Donc, l'El Haseder, à minuit, c'est le moment de la libération. Ou chez Yatsu, mais quand est-ce qu'ils sont effectivement sortis d'Égypte? Lo Yatsu Ela Bayom. Ils ne sont sortis qu'au matin. C'est-à-dire, ils ont eu un statut de libérés à partir de minuit. Et concrètement, ils sont sortis d'Égypte le matin, quelques heures plus tard seulement. Donc, la Gemara, non seulement elle ne dit pas comme lui, mais elle dit quelque chose qui est aussi surprenant. Bon, on était libérés. À minuit, on était libres. Mais de facto, les roues des chariots n'ont commencé à tourner que le matin. Le matin, nous avons commencé à sortir. Enfin, nous sommes sortis. Ça dit la Gemara, à Kol Modim. Tout le monde est d'accord avec ça. Difficile pour le Ramban, Moram Fourechet. Mais en fait, la Gemara dans Brachot, cette Gemara, elle est suivie d'un texte qui dit la chose suivante. La Gemara, elle dit, Tanya Namiachi, on a aussi appris ça dans une Braïta. La Braïta dit comme ça. Otsiacha Hashem Elokecha mi Mitzrayim laila. Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte de nuit. La Gemara demande, la Braïta demande, Vechiba laila yatsu. Est-ce qu'ils sont sortis de nuit? Alors, lo yatsu et la bayom, ils ne sont sortis que de jour. Pourquoi la Gemara dit Otsiacha Hashem Elokecha mi Mitzrayim laila? Alors que on sait bien qu'ils sont sortis de jour. Alors la Gemara dit Ela, écoutez bien, Melamed Shehitrila lahem geula mi ba'erev. La Gemara, elle introduit le commencement de la réponse que le Ramban va donner à notre objection. La Gemara dit pas comme toi, hein. Il dit, bah si, la Gemara dit bien comme moi. La Gemara, elle dit que ce qui s'est passé, c'est Atrala, le commencement de la Geoula. Alors le Ramban dira, hein, c'est vrai, la Gemara, elle nous enseigne que le commencement de la Geoula, c'était effectivement à minuit, le soir du Seder. Enfin, ce qui est le soir du Seder pour nous. Le soir du 15, la nuit du 15, 14 au 15 donc, à minuit, le commencement de la Geoula. En d'autres termes, le Ramban veut dire que la Geoula n'a pas été un moment, mais un processus. La Geoula elle-même est un processus. Alors c'est un processus très intéressant. Un processus qui a commencé par une sortie physique d'Égypte. Ensuite, le passage de la mer. Ensuite, au bout de 7 semaines, on s'est trouvé au Sinaï, Kabbalat HaTorah. Kabbalat HaTorah comme un élément dans le processus de libération. C'est pas fini, on est ici au mois de Sivan. On est 7 semaines après la sortie d'Égypte. Le processus, il va durer quasiment un an moins 15 jours. Qu'est-ce qu'il y a dans ce processus? Eh bien, dans ce processus, il y a le chet du Hegel, il y a la faute du veau d'or. C'est-à-dire, dans ce processus de libération, il y a eu une chute vertigineuse. C'est pas aller comme un long fleuve tranquille, un Géoula qui se déroule comme ça. Il y a eu des échecs gigantesques, dont le chet à Hegel. Mais ensuite, Hachem a pardonné le chet à Hegel. Moshe Rabbeinu est remonté, on a redescendu les deuxièmes, il a descendu les deuxièmes louchot. Tout ça, c'est dans le processus de libération. Et ensuite, il descend les louchot, on est à Yom Kippour, oui. On a passé de Pessah à Yom Kippour. Maintenant, à Sukkot, c'est la construction du Mishkan. Et on construit le Mishkan, on le construit de Sukkot à Hanouka. À Hanouka, le Mishkan était prêt. Mais Hachem a dit, on ne le montra qu'en Nissan. Et donc, tout le long, tout ça, c'est ça tout le processus. Tout un processus de libération. Et le Ramban va argumenter, il va donner des arguments. Écoutez ce que dit Ramban. Le Ramban dit, quand il parle de cette Gemara qu'on vient de lire, il dit Me'et shepatra paro yikreu yotzim. Là, comme commentaire sur la Gemara, il dit, depuis le moment où Paro les a dispensés de travail, ils s'appellent Yotzim, ils sont en train de sortir. Donc ici on retrouve ce qu'il a dit, que au moment de la Geoula, au moment de la Yetzia, ils sont seulement Yotzim, ils ne sont pas encore Geoulim. Il faut comprendre pourquoi, effectivement, la Yetzia, la sortie d'Égypte, n'est pas une Geoula. Pourquoi est-ce que ça n'est qu'un moment dans le processus de Geoula? Il faut comprendre pourquoi on était en Galoute. Pourquoi on était dans le Galoute de Mitzrayim. Alors vous savez bien, le Ramban, il a une interprétation différente de la classique. De façon classique, on dit, on était en Galoute, en Mitzrayim, parce que quand Hachem a promis la terre à Abraham Avinu, Abraham Avinu lui a dit, ben Moéda, donne-moi un signe que j'aurai effectivement cette terre, quelle que soit la conduite, quelle que soit ma conduite et quelle que soit la conduite de mes descendants. Et Hachem lui a répondu, Yadoa Teda, tes enfants seront en Galoute, etc. C'est ça. C'est ça le signe. Le Ramban dit un peu différemment. Le Ramban dit comme ça. Veda, ceux qui ont entendu le shiur de Ramban savent que le Ramban ici dit quelque chose d'assez énorme. Veda, dit Ramban, ki Avraham avinu chata chet gadol bishgaga. Qu'Avraham avinu a fait une énorme faute. Le Shogeg, mais il a fait une énorme faute. Shevi ishto atzadeket bemirchol avon mipne pachado min pen yargu. Il a mis sa femme dans une situation de quasi adultère parce qu'il avait peur qu'on le tue. Il a donc dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Et donc il a laissé prendre Sarah par les sbires de Paro et emmener Sarah dans le harem de Paro. Bien sûr, Hachem a envoyé des Negaïm à Paro, il n'a rien pu faire. Mais, dit Ramban, c'est une énorme faute de la part d'Abraham Avinu qu'il a faite parce qu'il avait peur d'être tué. qui en soi est extrêmement difficile à comprendre. C'est ce même Abraham qui était dans la fournaise, c'est ce même Abraham qui va passer toutes les épreuves. Alors le Ramban dit qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Ayalo livtoach b'Hashem. Il aurait dû faire confiance à Hashem. Sheyatzil oto ve'et ishto ve'et kol asher lo. Il aurait dû faire confiance à Hashem qu'Hashem allait le sauver, lui, sa femme et ses biens. Pourquoi? Ki yesh be'Elokim koach la'azor ou la'atzil. Parce qu'Elokim a la force d'aider et de sauver. Il a fait une deuxième faute. Gam be'yitziato min ha'aretz. Lorsqu'Hachem lui a annoncé la terre, il l'a envoyé en direction de l'Eretz Israël. Quand il est arrivé en Eretz Israël, il y avait la famine. Qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu? Il a fait ses bagages et il est descendu en Égypte. Mipnei Ra'av. Donc il a fait une faute. Pourquoi? Ki Elokim b'Ra'av yifadenu mimavet. Hachem, dans la famine, par la famine, il le rachète de la mort. C'est-à-dire, il aurait peut-être dû supporter cette famine. Hachem l'allait le sauver, il n'allait pas mourir. Et Ramban dit, « Val hamaase haze nigzar al zaro hagalut » à cause de cette action-là, cette double action, la xéra de Galout a été prise contre lui. Galout be'eretz Mitzrayim et be'yad Paro. Pourquoi est-ce qu'on a été en Galout en Mitzrayim? Parce qu'Abraham Avinu est descendu en Mitzrayim. Pourquoi est-ce qu'on a été livré à Paro? Parce qu'Abraham Avinu a livré Sarah à Paro. C'est ce que dit Ramban. Mais ça lui a été dit après. Ça lui est dit justement. D'habitude, on dit que la réponse, pourquoi on va en galoute, parce que il a posé, c'est la réponse à sa question. Donne-moi un signe pour la terre. Mais Ramban, il dit c'est secondaire. La vraie raison, qui elle rencontre effectivement à la fois, c'est pas parce que la raison que nous donnons en général, elle ne rend pas compte du fait que c'était en Égypte. Ça aurait pu être n'importe où. Le pshat du Ramban, ça peut être d'Afka en Égypte. C'est Abraham Avinu qui a fabriqué le chemin pour descendre en Égypte. C'est Abraham Avinu qui a fabriqué le chemin pour qu'on soit dans la main de Paro. Et donc, cette sévérité qu'Hachem a eue à l'égard d'Abraham, c'est le fait qu'il l'ait repris durement. Sur son manque de bitachon, on a du mal à dire des choses pareilles. L'inventeur du bitachon accusé de manque de bitachon. C'est la siba, c'est la cause, c'est le shoresh, c'est la racine de Galout Mitzrayim. Par conséquent, le Galout en Égypte, il vient pour réparer la faute d'Abraham. Et donc, ce galout ne prendra fin, c'est-à-dire, il n'y aura de geoula que quand la faute sera complètement réparée. Qu'est-ce que c'est la réparation? C'est un état de bitachon complet, un état de confiance complet en Hachem. C'est effectivement ce qui va se passer. Lorsque les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, alors ils arriveront à la situation d'être le Ma'an Teda, pour que tu saches qui ani Hashem bekerev haaretz. Hachem dit, j'envoie toutes ces makotes, etc., pour que tu saches que moi, Hachem, je suis sur terre, je suis dans le cœur de la terre, au sens de, je suis parmi vous. Mais il va se construire, on va construire le bitachon. Ça se construit. On va les aider à acquérir ce bitachon. Il ne va pas tomber du ciel, le bitachon. Il faut le construire. Mais ça se construit, là. Il se construit la confiance progressivement. Pourquoi ils sont ? Parce que si, ils sont sortis de façon prématurée, parce que sinon, il n'y avait plus personne. Si on n'était pas sortis à ce moment-là, il n'y avait plus personne. Il faut savoir... Il faut se souvenir que vous savez bien ce qu'étaient les manchettes des journaux à ce moment-là. Le Dieu des Juifs leur propose la liberté, 80% refusent. Il n'y avait plus que 20% qui étaient capables de sortir, et vous savez bien, ceux qui sont sortis, ensuite, immédiatement, ils se sont mis à récriminer, on n'aurait jamais dû venir, pourquoi tu nous as amenés crever dans le désert, etc. Retournant en Égypte, là-bas on était bien, on pouvait manger gratos. Ils auraient été complètement assimilés, il n'y avait plus personne pour sortir. Comme le Ramban le dit à la fin de Parashat Bo, il dit le horot à la Hashgacha. C'est pour montrer ce qu'Hachem a montré en Égypte, c'est montrer la Hashgacha, c'est montrer la providence, le fait que le souci qu'il avait du klal, enfin de Bnei Israël, qu'il lo azav otah al mikrim, il n'a pas abandonné les Bnei Israël au hasard. Et on dit aussi ba'avur teda ki en kamoni bechol haaretz, pour que tu saches que personne ne m'est comparable sur terre. Ça, c'est pour montrer la toute-puissance d'Hachem. Et donc, ce galout long d'Égypte, de 110 ans de facto, et plein d'épreuves, avait pour but que, finalement, les Bnei Israël en arrivent à reconnaître totalement que Akadosh Baruch Hu peut sauver. Il peut même sauver des gens, non seulement qui sont libre, comme Abraham Avinu l'était en Égypte, mais y compris des esclaves, des gens qui sont au 36e dessous, enfin 36 c'est pas le bon chiffre, au 49e dessous, et que il peut même les sortir donc d'Égypte seulement pour réparer la faute. Il fallait arriver à ce que le Ramban a appelé Ma'alat Avotam, le niveau auquel se trouvaient les ancêtres, c'est-à-dire ce Sod Eloka Alei Oalehem, qu'il y avait Elohim au-dessus de leur tente. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'un savoir que Hachem protège les Bnei Israël. Il ne suffit pas de reconnaître que globalement il est tout puissant. Il peut sauver n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Il faut qu'il l'expérimente. Il faut qu'il y ait, qu'il expérimente de façon immédiate, sans aucun intermédiaire. Il sent que HaKadosh Baruch Hu les surveille et les sauve. Qu'à tout instant, il les protège. Cette connaissance-là, concrète, elle n'est pas venue avec la sortie d'Égypte. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient encore en galoute, en fait. Cette connaissance, elle ne vient que quand Hachem sera mâchré sa shrina sur le Mishkan, quand il y aura la présence divine dans le Mishkan. À ce moment-là, ils vont sentir concrètement qu'Akadosh Baruch Hu les protège. si on veut se faire une idée de la situation, alors on peut prendre le modèle suivant. Imaginez quelqu'un qui est dans une ville. Et il y a des gens qui peuvent lui en vouloir, qui peuvent essayer de lui faire du mal. Mais il sait, dans cette ville, il y a également son père. Et son père est un homme très puissant. Seulement le père, il est à quelques rues de là. Ça, c'est une situation. Et prenez une situation, la même situation, ce même bonhomme. Il est dans cette même ville. Mais son père habite avec lui. On comprend bien que son sentiment de sécurité n'est pas du tout le même. Même s'il est qu'à trois rues, mais il faut qu'il apprenne qu'il est en danger, puis ensuite qu'il vienne. Donc s'il est sur place, ça c'est la sécurité absolue. Bon, c'était ça. Par exemple, quand les Bnei Israël se sont trouvés devant la mer, ils ont paniqué parce que les Égyptiens arrivaient et qu'il n'y avait pas de moyen de s'enfuir. Ils se sont tournés vers Hachem. Au fond d'eux-mêmes, ils pouvaient très bien savoir qu'Hachem allait les sauver. Mais en attendant, il y a eu de la panique. Il y avait ce temps jusqu'à ce qu'Hachem leur dise quoi faire et qu'effectivement ils voient que la mer s'ouvre et qu'ils ont passé et que les Égyptiens, eux, ne sont pas ressortis de l'autre côté comme ils pensaient, vivants, etc. Ça a pris un temps. Jusqu'à ce que les Bnei Israël sachent qu'ils étaient vraiment sauvés. Parce qu'à ce moment-là, Hachem n'était pas encore parmi eux, en quelque sorte. De la manière dont il le sera avec Asherat Hashchina. Quand il y aura la présence divine dans le Mishkan, ce qui veut dire dans le cœur de chacun, alors Hachem habitera vraiment avec chacun, à ce moment-là ils seront en sécurité. Et on n'en est pas là. Tant qu'on n'est pas arrivé à la situation du Mishkan, on n'en est pas là. Et une fois qu'on a établi ça, alors on s'aperçoit que les versets le disent également. Qui est dit dans le pasouk. Pasouk, il est dit Ve'otseti etchem mitachat sivlot mitzrayim. Je vous sortirai des souffrances de l'Égypte que je vous inflige. Ve'itzalti etchem, je vous sauverai de votre esclavage. Ve'gaalti etchem mizroa netuya, et je vous libérerai avec une main forte. Et je vous prendrai comme mon peuple. Et je serai Elohim pour vous. Alors, vous saurez qu'il y a Hachem Elokechem, Hamotzi etchem mitachat sivlot mitzrayim. Que moi, Hachem, votre Dieu, je vous ai sorti des souffrances de l'Égypte. Alors d'abord, ce verset, quand vous l'avez entendu ici, comme je dis, c'est un verset qui doit vous donner soif. Parce que c'est le verset à partir duquel on déduit qu'on doit boire 4 coupes de vin le soir du Seder. Je vois que ça vous a pas soif, tant pis pour vous. Mais dans ce verset, on voit que c'est marqué « Ve'otseti » et après « Ve'otseti », il a encore fallu « Ve'itzalti » Je vous sauverai, et seulement après, Vegaalti. Donc, entre Otseti et Gaalti, il y a encore une étape, Itzalti. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'Hachem les a sortis d'Égypte qu'effectivement ils sont libérés. Ils pourraient très bien, comme Hachem le craignait, dire, mais on va faire demi-tour et tant pis, là c'est trop dur ce qu'on nous demande, on retourne en Égypte. Ils l'ont dit quelquefois, et Hachem ne les a pas envoyés par le chemin le plus court, de crainte que devant la guerre, ils décident de retourner en Égypte. Donc la sortie d'Égypte n'avait aucun caractère de libération. Alors, c'est intéressant qu'il n'y a eu de libération qu'après le Hegel, qu'après le Vaudor. Il y a eu le Vaudor, puisque le Vaudor est avant la construction du Mishkan. Il y a eu cette expérience du Vaudor, cette chute vertigineuse du clan Israël au moment du Vaudor. Et après, Hachem a pardonné. Et à ce moment-là, donc, ils arrivent. Hachem pardonne et il. Non seulement il pardonne, mais ensuite il leur dit : voilà, je résiderai parmi vous. On peut peut-être comprendre, avec cette explication-là, on peut peut-être comprendre ce que nous dit le rédacteur de la Haggadah. Le rédacteur de la Haggadah, vous vous souvenez, il y a 15 fois Dayenu. D'accord ? On dit, Ilu Otsianu Mitzrayim, etc. Dayenu, 15 fois. Et ça correspond aux 15 marches dans le Bet HaMikdash. 15 Shiramalot, si vous voulez. Et à la fin, on récapitule et on dit Alachat Kama Vekama Tova Kfulam. Donc, on a encore bien plus de raisons d'être reconnaissant, puisque on a eu non seulement ceci, mais encore ça, mais encore ça, mais encore ça, mais encore ça. Et qu'est-ce qu'on dit finalement si on. On prend quelques-unes des étapes fondamentales. C'est marqué She'otzianu mimitzrayim Venatan lanu et Torah Vichnisanu l'Eretz Israël. Et finalement, Ubanalanu et Bet Abchira le Chaper al Kol Avonoteinu. Il a construit le Bet Amigdash pour que nous ayons kapara sur toutes nos fautes. C'était ça le summum? Bon, c'est toute l'histoire, l'affaire, là, c'était pourquoi ? Pour que nous ayons kapara sur nos fautes. Qu'est-ce qu'il veut, là, tout à coup ? Il fait, qui nous a donné la Torah, c'est rien, qui nous est sorti d'Égypte, c'est rien, tout ça. L'important, c'est qu'on ait kapara sur nos fautes. Ça veut dire. Alors, en vérité, ce n'est pas la sortie d'Égypte qui est la Géoula, comme on a vu. Ce n'est pas le don de la Torah qui est la Géoula. Ce n'est que la Shrina, la présence de la Shrina, c'est-à-dire sur chacun d'entre nous. Bon, la Shrina, c'est pas quand Hachem dit « je résiderai parmi vous », ça veut dire dans le cœur de chacun. Ça, c'est la Géoula. Et en quoi est-ce que c'est la Géoula ? C'est que si quelqu'un faute, il aura kapara. Il pourra avoir kapara. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la chose suivante. Quand quelqu'un fait une faute, ben il est éloigné d'Hachem. Il s'éloigne d'Hachem. Et lorsqu'il est éloigné d'Hachem, alors, son sentiment de sécurité, par exemple, comme on l'a dit précédemment, c'est comme si le père, il est à quelques rues. Il est tout près, mais pas vraiment là. La faute est là. Elle m'a éloigné. Il existe d'ailleurs des situations dans lesquelles on se trouve éloigné même si on n'a pas fait de faute. Toute la notion de Touma, par exemple, d'impureté, nous éloigne. Et pourtant, l'impureté, elle ne vient pas obligatoirement à cause d'une faute. Il y a des processus parfaitement naturels qui engendrent l'impureté. Par exemple, une femme qui accouche est dans un état d'impureté. elle n'a pas fait de faute. Et puisqu'elle est dans un état d'impureté, alors elle ne peut pas entrer au Beth Amikdash, ou elle ne peut pas manger certaines nourritures qui ont un degré de Gdusha. Un homme qui serait impur, pour des raisons purement physiologiques, lui non plus, il ne peut pas. Le Kohen Gadol, on craignait qu'il ne devienne impur, sans faire, on craignait pas qu'il fasse une faute, mais qu'il devienne impur et qu'il ne puisse pas fonctionner Yom Kippour. Alors on lui désignait une doublure. Il y avait un Kohen qui était sur le banc de touche et qui attendait. Si jamais on avait besoin de lui, il était là. Il jouait le rôle de Kohen Gadol à Yom Kippour. Il y a une metziout, une réalité de l'éloignement qui, effectivement, peut venir. Le véritable éloignement pour lequel on peut quelque chose, c'est celui qui résulte d'une faute. Et obligatoirement, quand on est loin d'Hachem, qui est celui qui sauve, celui qui aide, etc., même si on est un tout petit peu éloigné, comme je disais, eh bien, on n'est pas dans le bitachon parfait. On peut pas avoir, on n'a pas le degré de sécurité complet. On sait bien qu'on est éloigné d'Hachem. Qu'est-ce qui va me permettre de retrouver le bitachon complet? Eh bien, il va falloir faire en sorte que cet éloignement disparaisse. Il faut me rapprocher. Le rapprochement, ça se fait avec un korban. Bon, korban, qui est la shon karov. Okay. Procédure de rapprochement. Mais qu'est-ce qui dans le korban est efficace pour cela? C'est la faculté de kapara. Kapara, ça veut dire qu'on lave la faute. Il n'y a plus trace de la faute. Bon. Il faut qu'il n'y ait plus trace de la faute pour que la proximité soit complètement rétablie et que le bitachon soit complètement rétabli. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'il donne ça comme le summum de ce qui justifie notre reconnaissance à l'égard d'Hachem, et que au fond, c'est ça, c'est cette capacité d'obtenir la geoula, d'obtenir la kapara, qui fait de nous des geoulim, des gens véritablement libérés. Libéré parce que on est vraiment libéré, puisque même si on fait une faute, on a les moyens de réparer. Avant, on peut être libéré, mais si tu fais une faute, tu es définitivement éloigné, tu n'as pas les moyens de réparer. La tchouva, ça ne suffit pas. Il faut, quand on est en position de pouvoir apporter un korban, c'est plus que ça. Parce que finalement, nous, ce qu'on dit, c'est que on devrait apporter un korban. Et on dit, Neshama Parim Sfatenu, nous allons remplacer les taureaux par des paroles. Les corbanotes, les taureaux, c'est les corbanotes, on va les remplacer par Sfatenu, par le travail de nos lèvres. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, au lieu d'apporter un corban, on va lire, étudier la paracha qui correspond à ce corban. Et à ce moment-là, on a apporté le corban, c'est ça la procédure. Mais cette procédure-là, semble-t-il, elle n'existe. Enfin, d'abord, elle n'existe pas quand il y a. Elle n'existe que parce que elle remplace le korban qu'on pouvait apporter. Donc, il fallait d'abord qu'Hachem nous donne la possibilité d'apporter un korban, d'obtenir la kapara. Et à ce moment-là, quand on n'a plus cette possibilité physique, alors on a le remplacement par des paroles comme on peut le faire aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'avoir un lieu qui nous donne la possibilité de nous rapprocher et de supprimer tout éloignement. Donc la Géoula, c'est un processus grâce auquel on est en permanence proche d'Hachem, où on est en permanence en possibilité relativement rapide de se retrouver au plus près d'Hachem.
Mais la parole, elle est à la fois là pour réparer, mais elle peut être là aussi pour nuire.
Ah oui, non, c'est pas on parle ici d'une parole qui, une parole qu'on met au service de la réparation, qu'on utilise pour la réparation. Le taureau aussi peut faire du mal.
Oui, mais je voulais dire que normalement le hadès, ça vient de l'image du taureau, au niveau de la forme, de la façon.
Donc, bah, qui dit ça, mais bon.
C'est la première lettre qui contient toutes les lettres. Donc, ça voudrait dire que la parole elle-même, en général, la veuve est en lui-même, qui est entièrement là que pour la réparation.
La véritable fonction de la parole, c'est ça, évidemment. La vraie fonction de la parole, c'est l'étude de la prière. C'est-à-dire parler divinement.
Et là, le Ramban est en train de dire, si j'ai bien compris, que la Géoula, c'est la capacité de pardonner.
D'obtenir le pardon si on s'est éloigné. Oui. Maintenant, le problème, c'est qu'Hachem nous a donné un lieu. Il a donné une facilité, je pense. C'est ça que ça veut dire. Les Bnei Israël n'étaient pas dans cette situation-là. Ils étaient... On pouvait toujours faire tchouva. On a toujours pu faire tchouva. Mais les Bnei Israël en Égypte, ils étaient éloignés de la possibilité de faire tchouva. De facto, ils n'avaient pas la force de le faire. Il faut dire comme ça que la gueule, être en galoute, c'est empêcher effectivement d'être soi-même. Et ben, il ne faut pas oublier que dans le Galout, les Bnei Israël, en fait, avaient complètement baissé les bras. Ils ne voulaient même plus vivre. Ce sont les femmes qui sont allées chercher les hommes, bon, qui leur ont forcé la main, si on peut parler comme ça, pour fabriquer du futur, pour avoir des enfants. Pour qu'il y ait un futur. Le galout était tellement lourd que les Bnei Israël n'avaient plus la force, n'existaient plus, complètement inertes. Alors, il y a eu les femmes qui ont quasiment, on peut dire, d'abord il a fallu mettre au monde des hommes, puis ensuite que ces hommes les aident à mettre au monde des enfants. Et le c'est vrai que la tchouva, elle existe depuis avant le monde. Parce que il faut ajouter que le processus de kapara, il ne se peut qu'avec la tchouva. Il ne suffit pas d'apporter un korban. Si on ne fait pas tchouva, ça ne marche pas. Mais la notion de kapara, elle vient grâce au korban, ou à l'équivalent du korban. Ça, Yom Kippourim, c'est pas Yom Tshuva. Bien sûr qu'il faut faire Tshuva, mais le jour s'appelle Yom Kippourim, Yom de la Kapara, le jour de la Kapara. Une fois qu'on a fait Tshuva, alors il faut faire encore une procédure de Kapara. Oui. Deux. Oui. Je sais pas pourquoi la faute de Oui.
Une forme d'adultère, une forme d'adultère avec Hachem.
Oui. En d'autres termes, tu demandes si c'est pas une alila, quoi. C'est pas un prétexte. Alors tu sais bien, le midrash du prétexte, le Tanhuma classique, il commence pas avec Avraham Avinu. Il parle d'Adam, Yosef et Moshe Rabbeinu. Peut-être tu as raison, peut-être qu'il faut simplement une indication, mais qu'il dévoile un processus général. Simplement, je ne sais pas si on peut le dire tout seul, si le Midrash ne le dit pas. Je ne connais pas de Midrash qui le dise. Et ça, c'est une preuve de rien du tout. Mais le Ramban, lui, il n'a pas dit ça. Est-ce que vous pensez, je sais pas, ça peut être une alila.
Mais de toute manière, Pharaon, il reproche ensuite à Abraham, il dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que c'est ta femme?
Personne ne dit qu'il s'est rien passé, il a mis sa femme en danger.
Oui, mais est-ce que...
À Pourim non plus, il s'est rien passé. Tout le monde a tremblé pendant je sais pas quoi, il s'est rien passé. Oui, c'est relatif, se faire violer par Pharo, c'est relatif. Mais c'était le danger de ça. Si Hachem n'avait pas envoyé des Negaïm, bien sûr qu'elle aurait été violée par Pharo.
Mais il savait probablement qu'il y avait des
Negaïm. C'est ça. Alors, le Ramban, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Il lui dit, chata, chet, gadol, une grande faute. Oui. Je crois que d'ordinaire on explique que Abraham dit la chose suivante, il dit dans ce pays, si comme tu es extrêmement belle, Sarah faisait partie des plus belles femmes du monde, donc ta beauté est telle que s'ils savent que je suis le mari, ben, ils vont commencer par me tuer accidentellement et à ce moment tu seras libre. C'est un pays très respectueux des lois, on ne va pas enlever la femme de quelqu'un. Mais bon, si malheureusement elle est veuve, au contraire, Paro va s'en occuper. Donc, non, mais elle n'était pas veuve à ce moment-là. Pas du tout. Non, c'est pas la même chose. Et donc Paro va s'en occuper, et à ce moment-là, personne ne sera là pour te protéger. Tandis que si ils te prennent, qu'ils te prendront de toute manière. s'ils te prennent et que moi je suis à l'extérieur, je pourrais peut-être t'aider quelque part. Je pourrais essayer éventuellement de faire quelque chose. Et ils vont me faire du bien pour ça, mais peut-être ça veut dire ils vont me faire du bien, je serais bien. Et peut-être que je pourrais essayer de faire quelque chose pour toi. C'est ce qu'on dit comme explication. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, parce que je ne sais pas si c'est une espèce d'explication, je ne sais pas qui la donne exactement. Cette explication, si vraiment c'est une explication qui va avec ce que Hazan nous enseigne. Encore une fois, le Ramban ici, il ne pense pas ça. Il pense que c'est une grande faute, point barre. Et une faute qui a entraîné la descente en Égypte, tout le galout égyptien. Donc ça, c'est ça le problème. Le problème, c'est, je crois, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque la Geoula est un processus qui dure quasiment une année. Alors vous vous souvenez de ce qu'on avait dit à Pourim? On disait que, en vérité, Pourim, c'était le dernier moment de l'année, de cette nouvelle année qui commence en mois de Nissan, et qu'après Pourim, on passe au niveau supérieur. C'est-à-dire, après Pourim, on est, je vous avais donné cette image du millefeuille, on est sur un feuillet au-dessus. Puisqu'à Pourim, on va dire, on termine Pourim, c'est la clôture, et puis la nouvelle année commence, et cette nouvelle année commence, 15 jours plus tard, on est le soir du Seder, et on fait le programme de l'année à venir. Et on dit, voilà ce qu'on va faire pendant cette année. On va se considérer maintenant comme étant esclave, d'accord, parce que c'est... Et l'année prochaine, c'est-à-dire après tout le processus de Geoula, l'année prochaine, on va pouvoir être réellement libre. En d'autres termes, Pourim, c'est à peu près le moment du bilan. Non, et c'est un bilan un peu analogue au bilan de Rosh Hashanah. On est aussi avant un Rosh Hashanah. Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Rosh Chodesh Nissan. C'est le Rosh Hashanah, oui, de toutes sortes de choses, mais c'est bien le Rosh Hashanah par rapport à la Geoula. C'est marqué à Chodesh Hazeh, Rishon Hu, le Chodesh Hashanah. Ce mois-là, ce mois de Nissan, c'est le premier des mois de l'année. Donc, c'est une nouvelle année qui commence. C'est une nouvelle année pour toutes sortes de choses. Et donc, cette nouvelle année, comme toute nouvelle année, elle implique qu'on fasse un bilan pour savoir qu'est-ce qu'on a fait de l'année dernière. Seulement, à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, le bilan, il est sur les fautes. Et ici, le bilan, il est sur la liberté. C'est-à-dire, puisque j'ai dit l'an dernier, quand je me suis assis au Seder, j'ai dit, cette année, je suis esclave, et l'an prochain, je serai libre. Alors, on doit se demander, qu'est-ce que j'ai fait dans cette année-là, en termes de liberté? En quoi est-ce que je me suis libéré? De quel esclavage suis-je sorti? Alors il y a des gens qui ont des réponses faciles, des gens qui disent, ben voilà, je me suis libéré, j'étais esclave de la cigarette, j'ai arrêté cette année, j'étais esclave du jeu, de ceci, de l'alcool ou de la drogue, etc., et je m'en suis sorti. Donc ça, c'est une libération. Mais le commun des mortels qui n'est pas sorti de ça parce qu'il n'est jamais entré, ou qui n'est pas sorti, dans le bilan, c'est pas un bilan de faute, comprenez? Le bilan des fautes, ça se fait à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, pour savoir quelle faute on a faite et sur quoi il faut faire tchouva. Ici, c'est un bilan en termes de liberté. Qu'est-ce que j'ai gagné en termes de liberté? De quoi est-ce que je me suis libéré durant cette année, qui fait que maintenant, la nouvelle année, je peux la prendre comme étant libre, mais immédiatement je dis, comme nous disons à Rosh Hashanah, on dit qu'on est Benoni à Rosh Hashanah, parce que c'est la position la plus responsabilisante. Si on disait qu'on était un tzaddik, voilà, c'est très bien. Si on est un rachat, les carottes sont cuites, il n'y a plus rien à faire. Benoni, celui qui est moyen, tout est à faire, puisque chacun de ses gestes, tout se joue à nouveau. Ça, c'est le bilan d'avant Rosh Hashanah. le bilan en termes de liberté, si on s'interroge sur en quoi suis-je devenu plus libre durant ce processus de quoi est-ce que je me suis libéré. Alors par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, quelqu'un qui avait l'habitude de regarder chez les autres immédiatement le défaut qu'il pourrait trouver. Bon, c'est bon. Maintenant il s'est libéré. Maintenant je suis capable de regarder les autres sans être obnubilé par mais quel défaut il a. Trouver quelque chose à dire de négatif sur l'autre. Bon, c'est être libéré. Je suis capable de voir quelqu'un et de voir ses bons côtés, ses qualités. Bien, je sais pas. Vous avez peut-être d'autres idées de quel genre de liberté on peut, de quel genre de liberté on pourrait par exemple s'être libéré. Oui, mais en quoi en quoi ai-je avancé en termes de libération?
Oui, c'est-à-dire comment j'ai pu me transformer de la même façon qu'on peut faire le point avant de mourir pour voir en quoi la vie est.
Oui, mais là-bas, c'est en général. Oui, ça peut être. Je veux dire, il y a le côté faute. J'ai fait des fautes et je ne les fais plus. D'accord? J'avais l'habitude de, je sais pas, de voler. Je ne vole plus. J'avais l'habitude de manger des choses interdites, je ne le fais plus. Ça, c'est les fautes. Ça, c'est avant Rosh Hashanah. Mais maintenant, en termes de liberté, c'est autre chose. Ce n'est pas des fautes. C'est justement en termes d'esclavage, des choses qui me rendent la vie un peu impossible, quoi. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas vraiment m'épanouir? Parce que je ne peux pas. Qu'est-ce qui fait que je suis pas libre? D'accord? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas libre? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas libre? C'est par exemple le fait que je suis beaucoup trop dépendant du regard d'autrui. C'est pas une avéra. Mais je suis incapable d'être moi-même parce que je suis sans arrêt en train de me demander mais qu'est-ce que l'autre va penser de moi si je parle comme ça, si je m'habille comme ça, si je me maquille comme ça, si je ne sais pas si je vais en vacances à tel et tel endroit. Ou si je ne vais pas en vacances à tel et tel endroit, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Bon, alors, il y a là-bas des feuilles, vous pouvez prendre des feuilles, faire un bilan, je ramasserai les feuilles. On est vraiment esclave, quoi. Et voilà, ça, par exemple, ça pourrait être une sortie de l'esclavage que d'avoir réussi à arracher. Voilà, j'ai arraché, tous les jours, j'ai arraché une demi-heure de mon temps. Bon, j'ai réussi à arracher une demi-heure de mon temps que j'ai consacré à l'étude. Bon, voilà, ça c'est une libération. C'est pas une faute, il n'y avait pas de faute. Tu pouvais pas, tu sais, complètement. J'ai arraché. Une demi-heure, et peut-être que l'an prochain, j'en enlèverai une deuxième de demi-heure. Ça, par exemple, c'est un très bon exemple de libération.
Parce que normalement, elle a été là avant.
Il y avait Madame Laura.
mais même avant Matan Torah, il y avait la prononciation.
Oui.
C'est ce que j'arrive pas.
Non, mais il y avait Matan Torah, mais il n'y avait pas de résidence d'Hachem parmi les Bnei Israël. Les Bnei Israël ont participé à un moment d'un énorme dévoilement. Oui, mais ce n'était pas permanent. Ce n'était pas durable. Ce n'était pas parmi eux, ça s'est dévoilé. Ils ont été, par exemple, les Bnei Israël au Sinaï, ils étaient en bas de la montagne et puis ça se passait en haut, quoi, quelque part. Ce n'était pas, c'est pas en eux. C'est ça. Ils sont pas, d'une certaine manière, ils sont très peu participants.
Je veux dire que les patriarches,
eux, ils avaient, ça c'est autre chose. On parle, justement, ce que dit Ramban, oui, bah, ça c'était comme ça. Ça a disparu en Égypte. Quand on est descendu en esclavage, après Yosef, oui. Enfin, mais, bon, à ce moment-là, ça a disparu. Oui.
Nous n'étions pas présents. Donc, quand Kadosh Baruch Hu est là, après.
Mais il n'est pas parmi nous. Il y avait une barrière. On ne pouvait pas monter sur la montagne, et ça, ce n'était pas parmi nous. Le Mishkan, il était en plein milieu, en milieu du clan d'Israël. Et ça voulait dire je veux être dans le cœur de chacun, en plein milieu de chacun. Il n'y avait pas de. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu d'installation, si on peut parler comme ça, au centre des décisions. Dans le cœur de chacun, ça veut dire le cœur, c'est le centre de décision. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une installation au Mishkan. Le Mishkan, c'est le moment où Hachem s'installe. Et à Purim, c'est une Kabbalat HaTorah, ça, c'est une autre, c'est un peu autre chose. C'est un petit peu différent. C'est ce qui se passe vraiment, c'est autre chose. Ce qui se passe, c'est une installation dans le cœur de chacun. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça veut dire que le centre de décision, dans le centre de décision, il y a une présence divine. C'est ça l'idée. C'est dans ce centre, à ce moment-là, il y a cette présence divine. À Matan Torah, il n'y a pas cette présence-là. On n'a pas ce niveau-là. Ce n'est pas installé de la même manière. C'est de l'ordre de l'expérience, mais ce n'est pas à l'intérieur, installé à l'intérieur de chacun.
Donc c'est là, à ce moment-là, qu'on est devenu juif.
Non, juif, c'est peut-être pas juif, mais libre.
Oui, non, mais.
Ça, je sais pas, la différence elle est là avant. La différence elle est là avant.
Est-ce que c'est une question d'unité plutôt ?
L'unité, elle. L'unité, elle était là au pied du Sinaï. Elle était un petit peu avant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu, dans ce processus, qu'il y ait le Hegel, en fait. Qu'il y a eu une régression faramineuse qu'on entend à ce moment-là. Dans le processus, tout qui se déglingue à la limite, au point qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, c'est terminé, j'arrête avec eux. Si, laisse-moi et j'arrête avec eux.
C'est-à-dire qu'il a été indispensable, le Hegel.
Alors, on a un peu l'impression que, comme si cette expérience-là, extrême en quelque sorte, qu'elle était absolument nécessaire, on peut le montrer. D'une autre manière, c'est marqué dans le Chazal qu'à la suite du Hegel, quand Moshe Rabbeinu a intercédé, qu'il a obtenu les deuxièmes luchot, Kadosh Baruch Hu a donné à ce moment-là une nouvelle tfila, c'est-à-dire il nous a enseigné comment prier. Comment quelqu'un qui a fauté peut prier? On a reçu un nouveau nom divin, une nouvelle occurrence du tétragramme. On dit Hachem, Hachem, Kelachum. Cette répétition, deux fois le nom divin. Une fois correspond à la situation d'avant la faute. Et ce nom divin, là, d'une certaine façon, c'est ce qui fait être, il fait exister. Et ce nom divin, là, il n'assure pas l'existence au-delà de la faute. Et c'est pour ça qu'Hachem a dit, laisse-moi, je l'ai détruit. Comme Moshe Rabbeinu a refusé, il n'a pas laissé. Alors Hachem a pardonné et il a donné un deuxième nom divin. C'est le même, en fait, bien entendu. Mais cette fois-ci, ce nom divin-là, on peut dire comme ça, il supporte la faute. Et cette idée-là, qu'il faille supporter la faute, bon, d'une certaine manière, c'est ce qui permet la kapara, ultérieurement. Donc ce qu'on a dit que par la suite, il faut que le summum, c'est le rappel à kol avonotenu, cette idée-là, si vous voulez, elle n'est pas possible si on n'a pas le deuxième nom divin. Puisque le premier nom divin, il ne te permet pas de te rattraper. Tu es perdu. Oui, c'est un deuxième. Je ne sais pas. On ne peut pas dire Hachem n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas? Donc, il faut dire que le projet divin, c'était de le faire de cette manière-là. Il fallait probablement, là aussi, on peut dire qu'est-ce qui avait dit ça, hein, d'entre vous avait dit cette idée que, effectivement, ce nom divin-là, il est donné suite à l'intercession de Moshe Rabbeinu. Donc, d'une certaine manière, ce sont les hommes. Je disais, je crois. Il faut que les hommes interviennent. Hachem attend de la part des hommes qu'ils interviennent, qu'ils demandent quelque chose. Qu'ils le demandent. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas tout le monde, c'est Moshe Rabbeinu. Mais là, il est Moshe Kol Israël, c'est au nom de tout Israël. C'est au nom, comme quand il a ajouté un jour, etc., c'est au nom du peuple Israël. Il fait intervenir les Bnei Israël.
Le
Guel, oui.
Et le Corban. Parce que, en fait, comme c'est des taureaux et un loup, l'or, je me pose la question, il n'y a pas un rapport dans cette action-là.
Les Corbanotes, ce ne sont pas que les taureaux. C'est dans la phrase elle-même, on parle de Porim, mais. Mais ça peut être, oui, on a donné le taureau dans le passouk en question. Mais c'est pas que ça couvre pas l'ensemble des corbanotes.
Mais c'est vrai,
ça peut être des béliers, ça peut être des agneaux. Pardon? Non, lui, il parle d'après. C'est-à-dire que dans la parasha Toros, on dit que c'est la vache en quelque sorte qui vient, qu'on tue, enfin, dans toute la procédure de la para, elle vient pour réparer en fait l'image de Chazal et les saletés en fait du veau d'or. Quelque part, on a besoin c'est la mère qui vient réparer les dégâts du fils, quoi, si on peut parler comme ça, de l'enfant. Mais ça, c'est la poro. L'apparat, c'est pas un corban. Elle a un statut analogue, mais c'est pas un corban. Tu as raison, c'est une procédure, mais c'est pas. C'est une procédure de purification, c'est pas une procédure d'approche. Ça n'a pas la racine karov dedans. C'est une procédure de nettoyage, ça a plus à voir avec la notion de avec la notion de Touma, puisque ça a à voir avec la Touma Tmet, ça a à voir avec la mort. crois que c'est ça l'important, c'est cette idée de, à la limite, d'un bilan de liberté, quoi. Dans quelle mesure est-ce qu'on s'est libéré? Parce que sinon, on est dans l'éternel retour. Si on ne passe pas à ce moment-là sur le feuillet supérieur, alors on est dans la semoule, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer toute l'année par les mêmes étapes par lesquelles on a passé et au même niveau. Bon, alors, dans le même feuillet. On repasse bien par les mêmes stations, mais on repasse à des niveaux différents. Et en principe, on est censé s'élever chaque année pour que on repasse, mais pas à la même hauteur. Et l'éternel retour, c'est quand il manque une dimension. L'éternel retour, c'est toute la théorie de l'éternel retour, c'est il manque la dimension verticale, disons, si on veut parler comme ça, il manque la dimension du temps. Oui, ça tourne sans arrêt, mais on est toujours dans les mêmes. On passe et on repasse par les mêmes étapes. Si on exagérait, mais c'est peut-être pas végétatif, mais on pense. Si on fait. Oui, enfin, vous pourriez dire c'est. C'est en fait quelque chose sans un vrai futur. On n'est jamais dans un vrai futur, puisque c'est un futur. Le lendemain n'est que la répétition d'aujourd'hui qui est la répétition d'hier. Donc, il n'y a pas de futur. Et tout le travail dans la Torah, c'est d'inventer un futur. D'être capable de produire effectivement du futur. Mais un vrai futur. Quelque chose d'inédit encore. Chose qui n'a jamais eu lieu. On n'a jamais passé à ce niveau-là. Jamais. Non, mais c'est chaque année. C'est pas schéma. Non, mais c'est pas la Goula Shlema. C'est la Goula Shlema, c'est quand on arrive au bout, mais. Donc ça c'est le, semble-t-il, ce chidouche du Ramban, qui en vérité, une fois qu'il l'a dit, on voit que la Gemara elle a fait une allusion, mais on pourrait très bien passer à côté dans la Gemara. C'est une idée d'une atrala, d'un début. Bon, c'est ce que la Braïta répond. C'est vrai, mais c'est un début seulement. Mais si on n'avait pas le Ramban, si on n'avait pas vu le Ramban à l'avance, on n'aurait peut-être pas fait suffisamment attention, ça aurait été une erreur évidemment, on n'a pas fait attention à ce mot d'Atrala. Bon, normalement, j'ai pas regardé ce que disent les autres sur ce. Les autres Mefarshim sur cette notion d'Atrala. Bon, j'essaierai de regarder Ben Yedder, si jamais je trouve quelque chose, je vous dirai. Ok, c'est bon. On s'arrête là.